Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste, la voix de Radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend ce soir pour cette nouvelle année 2023. Vous venez d'écouter Verdun, un morceau qui s'appelle Notre Combat, un morceau de 87 et qui vient, mais une fois de plus, exactement... calé avec le thème de notre émission de ce soir, puisque ce soir c'est Michel qui va nous présenter une espèce de monument de la littérature de guerre, pourrait-on dire, du témoignage de guerre. On est à cheval entre l'histoire et la littérature. C'est Michel, tu vas nous parler d'un livre qui s'appelle Le Témoin de Jean Norton Cru. Alors c'est un espèce de monument de la voilà dans l'historiographie de la Première Guerre mondiale notamment. C'est un texte qui regroupe tout un tas de sources de témoignages
de
plus ou moins de critiques plus ou moins directes du front pendant la Première Guerre mondiale. C'est un travail qui a été fait par l'auteur la Jean Norton Cru dès la fin de la Première Guerre mondiale. Il a connu plusieurs éditions. Alors, c'est un livre qui regroupe, qui est énorme, hein. C'est un vrai pavé. Il a connu plusieurs éditions partielles et il vient d'être réédité là, donc en 2022, chez les amis des éditions Agone, avec une préface de Philippe Oliveira, qu'on salue s'il nous écoute. Donc, alors peut-être tu peux nous rappeler un peu quel est le projet de ce livre, qui est une espèce d'ovni en fait, hein, parce que c'est
un ovni complet.
Ouais.
Alors, le truc, c'est que peut-être même avant, je voudrais faire un rappel sur... Bon, le début de l'écriture, c'est la comptabilité, mais le récit de la littérature en Occident, c'est peut-être le récit de guerre, avec l'Iliade d'Homère, et avec une espèce de fixation d'un lieu commun littéraire et narratif qui va être des masses anonymes qui se battent et meurent dans l'animal plus total, et puis des héros qui s'affrontent de façon décisive et qui font tourner la bataille dans un sens ou dans un autre. Et cette espèce de scénario homérique, on le retrouve encore aujourd'hui dans énormément de films de guerre où il y a un héros qui affronte un héros adverse et qui fait basculer le cours de la guerre. Et cette vision homérique et héroïque de la guerre, ce qui est amusant, enfin, ou étonnant, et j'en entends cru, en parlera beaucoup, c'est que, à l'ère de la guerre moderne, d'une certaine manière, elle n'a plus aucun sens descriptif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Achille se ferait pilonner par un type de 18 ans qui n'a jamais lu un livre, à qui, distance, et il mourrait par un drone.
Avant même d'avoir pu poser un pied sur la plage.
C'est ça, et il mourrait dans l'anonymat, de la façon absurde. Et bon, et la guerre moderne, ça commence en réalité sans doute avec la guerre civile américaine, mais ça va se révéler de façon massive au moment de la Première Guerre mondiale en Europe. Et cette guerre moderne va rendre, d'un point de vue réaliste, en quelque sorte, toute la littérature héroïque
fausse.
Alors après, on pourrait peut-être aujourd'hui se demander ce qu'est devenu cette littérature, enfin comment dire, cette narration de la guerre. Ouais. Moi, j'y pensais en réfléchissant à ce bouquin, c'est que, par exemple, est-ce que ça a vraiment changé depuis Homère ? Là, il y a les films, mais on pourrait voir aussi les jeux vidéo. Et par exemple, là, quand vous voyez des images de ce qui se passe en Ukraine, vous avez énormément d'images de guerre qui sont directes et qui sont prises, en fait, par des soldats qui ont accroché une GoPro à leur casque. Et donc, on a une vision de la guerre en première personne qui peut faire penser à des jeux vidéo, mais où, là encore, vous avez des trucs qui sont quasiment héroïques. Et je suis pas du tout sûr qu'en réalité on soit sorti, malgré la technologie actuelle, de cette espèce de récit de la guerre qui est complètement héroïque. Alors, on pourrait prendre par exemple, je sais pas, on prend Spielberg, il faut sauver les soldats Ryan. Ça commence, on a l'impression que c'est des masses anonymes qui arrivent sur la plage et qui meurent de façon plus ou moins hasardeuse. Voilà, je suis sur le trajet ou pas de la balle et je meurs ou je survis non pas parce que je suis un héros. Mais uniquement parce que face au type qui tire au hasard sur une masse en face de moi, ben, j'étais pas sur le trajet de la balle, donc j'ai survécu. Et donc au début on peut se dire Spielberg est sorti de ce truc là et puis ben dix minutes plus tard il y a 5 héros qui surgissent et qui vont aller en sauver un 6e qui s'est planqué. Et donc je pense que pour le coup ce que va faire l'ouvrage de Jean Norton Cru est encore finalement assez d'actualité.
Il cherche à déconstruire ça.
Il cherche à déconstruire ça
par le bas.
Ouais. Et c'est un projet qui est, moi j'ai envie de dire complètement fou. Hein. Ouais. Le type est cinglé dans sa volonté.
Vas-y, explique-nous ça, parce qu'effectivement, il y a une espèce d'inventaire quasi exhaustif.
Alors, qui est Jean Norton Cru ? Ouais. Toi, t'as revu sa bio, tu me dis que c'était le fils d'un pasteur.
Oui, alors bon, il a une trajectoire assez intéressante. Il est fils de pasteur, ardéchois. Après, il a une formation littéraire, universitaire. Il va enseigner à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis. Il enseigne aussi à Oran, puis il repart aux États-Unis. Donc en fait, tout ça avant la Première Guerre mondiale. Hein, donc il a un parcours, c'est un intellectuel, quoi. C'est pas un universitaire, une gloire universitaire, mais c'est un intellectuel qui a une carrière en partie internationale. Et il va se retrouver mobilisé quand la guerre éclate, il a 35 ans hein, à peu près. Donc il doit être sous-officier, mais il va être au front. Il va deux fois à Verdun en 16 et en 17. Il est mobilisé dès 14. Et la fin de la guerre, en fait, il ne démobilise qu'à la fin, courant 17, et il va repartir aux États-Unis pour faire un cycle de conférences à ce moment-là, de propagande, pour justifier en fait l'intervention américaine en Europe. Et donc il finit la guerre de cette manière-là. Et il va enchaîner effectivement derrière donc ce projet complètement colossal de collecte, hein, de collecte de toutes les formes de témoignages rapportés du front, sur le front, sur la guerre. Et il va essayer de classer ça, à partir de tout un tas de paramètres, de manière à essayer d'évaluer chacun de ces témoignages pour essayer de construire, hein, par recoupement, on va dire, hein, une espèce de récit vrai de l'expérience de la guerre et en évitant du coup tous les poncifs, tous les standards et toutes les formes de récits qui tendent à occulter, à planir, modifier, transformer, héroïser, aseptiser ou au contraire à dramatiser à outrance, mais à perdre en fait cette expérience authentique, véridique du front, quoi. Mmh. Et donc c'est un travail qui va l'emmener sur plusieurs années.
Hein. Bah en fait c'est 10 ans.
Voilà.
Il passe 10 ans à lire absolument tout ce qui se publie en langue française sur la guerre. Et donc tous les récits de la Première Guerre mondiale, il les lit et il a un filtre pour les analyser. Alors là, il y a aussi tout un tas de choses intéressantes. C'est-à-dire que il va déjà avoir une espèce de lecture un peu presque. Alors, il est, malgré tout, c'est un intellectuel, donc il va classer ses lectures par genre. Est-ce que c'est un journal? Est-ce que c'est des souvenirs? Est-ce que c'est des réflexions sur la guerre? Ou est-ce que c'est un roman? Donc, il y a cette affaire de genre. Ensuite, il va aussi faire un classement. Alors, il en lit, je ne sais plus combien de centaines. C'est fou. Il parle de tonnes d'auteurs que tout le monde a oubliés. Max Deauville. Alors, peut-être que les spécialistes de la guerre me diront « Mais comment ça, tu ne connais pas Max Deauville ?» voyons. Je ne sais pas du tout qui c'est. Jean Pinguet. Je connais d'un Pinguet qui est en littérature. Léo Larguier, Raymond Jubert, Guy Allais, Georges Gaudy, Marcel Fourier, Marcel Dupont. Tous les gens qui ont écrit sur la guerre. Et donc,
ces archives, elles sont, si j'ai bien suivi, ces archives sont à Marseille. Elles sont à Marseille. Et donc, il y a une bibliothèque, en fait, à la bibliothèque de Jean d'Hortoncru, avec justement les centaines de livres qu'il a compulsés, etc. Il y a un fonds, si tu veux, Jean d'Hortoncru, qui existe. Hein, donc, alors, je ne sais pas si, dans quelle mesure il est consultable ou pas, mais effectivement, il y a le stock, en fait, de textes et d'auteurs sur lesquels il a pu travailler. Effectivement, et comme tu dis, alors, sur la quantité, il y en a qui, effectivement, qu'on un peu travaillé. Traverser les années, et puis il y a tous ces inconnus là dont tu parles, et que lui se cogne, et qu'il évalue. Donc tu dis, il y a les critères de genre, tu disais, il y a les critères sociaux aussi.
Alors ces critères sociaux, un peu par défaut, mais c'est quand même malgré tout, en bout du compte, tu tombes quand même sur de la sociologie, c'est-à-dire qu'il va s'apercevoir en lisant qu'il y a une espèce de règle qui veut que, et qui est assez simple à comprendre, que moins la personne finalement a passé de temps au front, plus elle va présenter une vision déformée. Et fausse de ce qui se passait sur le front. Sachant que lui, a passé beaucoup de temps sur le front.
Ouais. Deux fois à Verdun, je disais.
C'est quelqu'un qui est revenu des États-Unis exprès pour s'engager parce qu'il était patriote, alors qu'il aurait pu tout à fait ne pas y aller. Et donc, il a une expérience, lui, de première main. Quoi. Et donc, il va y avoir cette espèce de filtre. Et qui va passer et qui va dire, voilà, est-ce que vous étiez à l'état-major? Est-ce que vous étiez au front? Est-ce que vous étiez à Paris? Où est-ce que vous étiez quand vous avez écrit? Ce qui fait qu'il va demander en quelque sorte des comptes. Il y a une espèce de responsabilité du témoin, une espèce d'exigence de vérité du témoin. Vous racontez la guerre, est-ce que vous la racontez de façon véridique? En fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on a pu vivre et tout et tout. Et ça va donner une espèce de règle. Plus vous êtes éloigné du front, plus vous racontez des conneries. Et après, quelles conneries? Ça, c'est aussi compliqué. Parce que Cru, c'est pas du tout... Il a eu beau s'engager pour faire la guerre, c'est pas du tout un belliciste. C'est pas quelqu'un qui pense que la guerre c'est quelque chose
juste
de bien.
Avant de t'engager là-dedans, il faut dire, c'est pour pour les auditeurs, c'est du coup le livre là tel qu'il est édité par Agon, il s'est classé par genre justement.
Oui.
C'est ça. Hein, ils reprennent la classification que tu donnes, donc ils commencent par éplucher comme ça les journaux.
D'accord.
Alors t'as des notices, c'est ça. T'as des notices par auteur. Ils présentent un peu l'auteur. Ils présentent l'œuvre en question et ensuite il fait une lecture, une évaluation critique en fait du témoignage.
Alors il mêle un peu tout.
Ouais.
C'est-à-dire que, alors oui, effectivement, il y a une description, toujours. Par exemple, je ne sais pas, dans les journaux, j'en prends une au hasard, parce que j'en ai des tonnes. Jacques Bouy, soldat fantassin, séjour au front, 4 mois et demi, les derniers de la guerre. Donc on sait quand est-ce qu'il a été au front, combien de temps, etc. Soldat fantassin, voilà, un troufion. Témoignage, 2e bataille de la Marne et dernière bataille de Champagne, 1918. Âge du témoin, 20 ans. C'est de la critique littéraire. Hein. Actuellement, en France, je pense que c'est inacceptable de faire des critiques littéraires comme
ça. Et en même temps, c'est un manuel d'historien.
Et donc, il dit, Jacques Bouy est né en 1898, incorporé en avril 1917. Ayant son brevet d'aptitude militaire, il put choisir son corps, le 7e bataillon de chasseurs alpins à Antibes. Envoyé au front, fin juin 1918, à la 2e compagnie de mitrailleuses du 18e bataillon de chasseurs à pied de Stenay, c'est précis, chiant. 4e division, nommé agent de liaison entre sa compagnie et chef de corps à cause de sa connaissance de l'anglais. dans ses combats de l'été 1918 en liaison avec des unités américaines. Il prit part à la deuxième bataille de la Marne, à la dernière bataille de Champagne, et les dates, à l'armistice, son unité occupait des positions dans la forêt de Parois. Bouy refusa de quitter le front pour suivre les cours d'une école d'élèves officiers. Il termina la guerre comme simple soldat. Donc il a publié ce fameux Jacques Bouy, note d'un agent de liaison de la classe 1918. Paru en juillet, donc là vous avez, en quelque sorte, il dit c'est un des journaux les plus réguliers homogènes. Il est unique comme œuvre d'un tout jeune soldat qui n'a connu que la campagne de 18. Et après vous avez un paragraphe qui explique et qui présente l'œuvre. Donc ça sont dans les journaux l'intéressent beaucoup, le Cru, parce qu'il dit que justement là on est sans doute au plus près de la guerre et le plus loin de la transformation littéraire de la guerre.
Il va dire, oui, voilà. C'est ça, c'est des journaux d'actualité. Enfin, c'est le type qui tient son journal.
C'est ça, hein, c'est le type qui tient son journal et qui le publie et après.
Qui va consigner en fait ce qui se passe à peu près en direct ou quasi. Quoi,
c'est hein, ça. Après, Cru va se poser évidemment, j'imagine, la question de savoir s'il a bidouillé le journal après publication ou pas. Il dit, il semble certain que ce journal a été rédigé peu de temps après l'armistice, d'après des notes prises au jour le jour. Voilà. Le récit a une spontanéité, une fraîcheur d'impression qui inspire confiance. J'aime beaucoup. Alors, ce jeune soldat de 20 ans arrive au front au début de juillet 1918, en pleine guerre de mouvement, dans un des secteurs enfoncés par les Allemands. À sa première attaque, on commence à avancer du sud de la Marne vers l'Aisne. On peut suivre ses combats sur une carte à grande échelle. On ne prendra jamais Bouy en faute. Il est sincère et il est vrai, ce qui n'est réalisable que lorsqu'on se contente de parler de soi et de ses compagnons immédiats. Donc ici, une espèce d'exigence de témoignage au ras de l'événement. Qu'est-ce que tu as vu ? C'est tout. Après 29 jours en ligne, du bois de Rougy, sud de la Marne, à l'Ardre, qu'il appelle à tort l'Ayette, donc il a été tout vérifié quand même, hein, c'est un maniaque, vient une lacune de 45 jours de récit. C'est la période de repos et de récupération. Le journal reprend pour raconter les 11 jours en ligne, au nord de la Dormoise, en face de Tahure. Une seconde lacune de 37 jours est suivie du récit des deux derniers jours de guerre vers la forêt de Parois. En juillet-août, le bataillon de Bouy a été souvent en liaison avec la 4e division américaine et comme le jeune mitrailleur parle couramment l'anglais, il a pu faire connaissance avec ses voisins et s'informer sur eux. Plusieurs livres de guerre parlent des Américains, mais aucun n'en parle plus exactement que ce journal-ci. Nous y voyons que la maladie spirituellement nommée espionite, qui sévissait chez nous en 1914, affligea les Américains à leur début au front en 1918. Le livre est abondamment fourni de précisions. Outre les dates du journal, il y a beaucoup de noms de lieux et 28 noms d'unités, ce qui est énorme. Le style est simple, clair, sans prétention, laconique même, un peu jeune parfois avec ses épithètes clichés. L'auteur n'a pas un mot de haine ou de calomnie contre l'ennemi. Sa jeunesse, son bon sens appellent la sympathie et son journal fait regretter que l'infime contribution des classes 1916, 1917 et 1918 n'ait pas été plus riche. Et donc ici, voilà, là c'est une notice complète.
D'accord.
Par exemple.
Et donc ça se présente comme ça et pareil pour les autres, mais de manière plus ou moins détaillée selon.
C'est ça, selon
l'ampleur du journal,
selon l'ampleur de l'œuvre, du témoignage. Ouais. Là c'est une petite et plutôt
critique positive. Ouais,
une critique positive, pleine de louanges, laudative. Ouais. Voilà, c'est laudative que je cherchais, qui fait deux trois pages, d'un type qui a écrit sans doute un livre. Et donc, voilà, lui, nous commençons l'analyse critique des journaux parce qu'ils constituent les documents les plus intéressants, les plus caractéristiques, les plus utiles. Sans faire tort aux pensées ni à la psychologie, un bon journal contient plus de précisions et moins de littérature à effet. Mmh. En fait, de toute évidence, ici, ce que va constituer en quelque sorte comme genre, à la fois entre la littérature, peut-être, et l'histoire, à proprement parler, c'est le témoignage. C'est le genre du témoignage qui le fait apparaître Jean Norton Cru. Il s'appelait Jean, ça c'était un de ses prénoms. Norton, c'est un de ses deuxièmes prénoms parce qu'il était franco-américain.
Sa mère est anglaise, c'est ça.
Et donc c'est pour ça, donc on pourrait prononcer Jean Norton, mais ouais. Cru, par contre, à la française.
D'accord.
Et donc il dit, c'est plutôt au sujet des journaux. C'est tantôt la reproduction exacte des carnets où événements et réactions morales étaient notées au fur et à mesure. Tantôt la rédaction postérieure au fait, où le contenu du carnet était plus ou moins développé, remanié, ordonné, composé ou réécrit en termes plus compréhensibles pour le lecteur non initié. Par définition, le journal possède une exactitude fondamentale, celle des dates. Elle entraîne d'autres précisions. Quand on situe le fait ou le sentiment dans le temps, on est amené à le situer dans le lieu, topographie, puis dans le milieu, nom d'unité, de chef, de camarade. Donc ici, ce qu'il va rechercher, c'est la précision. Il va dire, voilà.
Et l'objectivité. Et
l'objectivité, complètement. Ouais, ouais. C'est-à-dire, et avec une espèce de, d'enchaînement. Mmh. Voilà, je suis obligé de dire ouais. Quand est-ce que j'écris.
Où je suis,
et,
quand,
et donc,
avec qui.
C'est ça.
Ouais,
donc si je dis quand je suis, ouais, bah, je vais tenter ouais, ouais. Bah, jeudi 25, ouais. Cher journal. Voilà.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si tu veux, il sort de ce que tu disais, de cette espèce de d'étau que tu mentionnais au départ, là, à la Spielberg, au soldat Ryan. Mmh. C'est-à-dire, c'est à la fois le troufion de base dans la masse, et en même temps, c'est lui qui c'est lui qui voit en fait, c'est lui qui sait de manière objective. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est dans la masse que c'est flou, que c'est anonyme et que c'est indistinct en fait. C'est ça. C'est effectivement t'es dans la masse, mais c'est dans la masse que tu distingues le mieux d'une certaine manière. Et t'as cette exigence là qui est assez fascinante quand même. Hein. Effectivement, tu dis le genre de témoignage, ça pose quand même la question des sources de l'historien quand même. Parce que tout ce qui est effectivement le récit de la guerre effectivement. Tel qu'il va se constituer après, il s'appuie justement, il ne peut s'appuyer que sur ce type de traces-là. Et la question de la sélection des sources, la question de la pondération des sources, comment tu vas les articuler, quelle ampleur de sources tu te donnes, et surtout comment tu les lis, et la valeur que tu vas leur donner à chacune en fonction du contexte, c'est une question qui est complètement cruciale. C'est-à-dire que le récit de la guerre, il n'existe pas sans ce travail-là. Et là, je trouve qu'en fait, il te porte ça avec un degré d'exigence qui est extraordinaire, quoi. Enfin, c'est aussi fascinant, je trouve, sur le sens que peut avoir une source écrite, hein, et l'enjeu de vérité que peut avoir justement l'écriture, que ce soit le journal, le roman ou autre, parce qu'il parle aussi de roman, hein.
À
la fin. Donc, cette question de la vérité objective, elle se pose, hein, effectivement, dans tous ces types de textes-là. Et c'est à la fois fascinant, je trouve, voilà, du point de vue littéraire ou de la critique littéraire, et du côté de la recherche historique. Historique, oui, historienne.
Et là, de ce point de vue-là, vous voyez, par exemple, là, on a les journaux, et donc, au début du truc, il va dire, les journaux, c'est sans doute un des plus exacts. Et après, il s'intéresse à un certain Alphonse Grasset, historien militaire, officier de carrière, capitaine dans l'infanterie, séjour au front, 16 et 132 jours, soit 5 mois, témoignage, bataille des frontières, ajoutez-moi, 41 ans, classement, machin, bon. Donc, il présente encore le gars, on voit que c'est un officier, bidule. Et ensuite, il va dire, le carnet de route du capitaine Grasset raconte sa première campagne de 14 jours, du 9 au 22 août 1914. Le premier contact avec l'ennemi eut lieu le 22 août, à 8h du matin. Grasset fut blessé avant midi, resta sur le champ de bataille et fut évacué dans la nuit. En ce qui concerne les impressions de guerre proprement dites, les impressions au contact de l'ennemi, ses souvenirs, se réduisent au récit de la seule journée du 22 août. Récit circonstancié, bien ordonné, et constituant un peu plus qu'un témoignage de combattant. C'est justement ce dernier point qui m'embarrasse. Ça constitue un peu plus qu'un témoignage de combattant. Mais le témoin Grasset, se trouve, est un historien militaire qui a lui-même examiné bien des témoignages avant d'en donner un lui-même. En outre, ses notes d'août 1914, il les a gardées pendant 4 ans. Et lorsqu'il les a publiés en 1919, il avait dû entendre un grand nombre de témoignages oraux, lire un grand nombre de témoignages écrits de la part des combattants présents à être comme lui. Croire que ces récits n'ont pas influencé sur ses impressions personnelles, voilà qui n'est guère possible. Son carnet constitue donc un document à part, unique entre tous ceux que nous examinons ici, et par cela même moins intéressant. Il est unique, donc il est moins intéressant. Et un peu plus tard, je pense que l'analyse est super intéressante ensuite, il dit « Je prends un détail au hasard ». Du même récit. Hein. Le petit bergère, lui, se lève tout droit, crie de toutes ses forces « Vive la France !» et s'abat comme une masse. Ça, c'est le journal qui est cité.
Peu crédible.
Et, c'est ça. Et après, Jean Norton Cru, « J'ai peine à croire que l'auteur ait vu et entendu cela. C'est une tradition, je le sais, que les soldats meurent souvent ainsi. Mais je ne connais aucun exemple d'un tel fait dans les souvenirs des 30 ou 40 meilleurs auteurs de ma liste. Le contexte de Grasset semble indiquer que le fait s'était passé hors de sa vue. Le témoin parlerait donc par oui-dire, ce qui n'est pas prudent quand il s'agit de faits aussi contestables.
Ah non, c'est remarquable.
Et les trucs là, tac, quoi. Ouais. Et il dit, je prends un détail au hasard. Ouais. Et ensuite, une espèce de récit héroïque d'une espèce de petit Gavroche qui tombe, pas pour la Révolution, mais pour la France. Non, en fait, on n'y croit pas. On va peut-être faire une pause musicale.
Ouais.
Et puis on retourne après.
Dans une ville en ville, sous un ciel en flamme, que tout est si sombre.
Bonsoir, rebonsoir à tous. C'est Jeudi Noir qui se poursuit sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Jeudi Noir consacré ce soir à la réédition du livre de Jean Norton Cru aux éditions Agone, livre qui s'appelle Le Témoin, cette espèce d'ovni littéraire et historique,
critique littéraire,
rassemble en fait une espèce de somme. Alors tout n'est pas, Agone a fait une sélection, tout n'est pas d'ailleurs réédité là dans ce volume-là qui est déjà énorme.
Il ne fait que 800 pages.
Et c'est donc une somme, là, ce livre Témoin de Jean Norton Cru, une somme de témoignages, alors de journaux, de romans, de souvenirs, donc de différents genres littéraires, qui portent sur la Première Guerre mondiale, sur la guerre de 14-18, et qui sont des souvenirs, alors toujours plus ou moins de première main, avec le but de chercher à avoir une espèce de description et de recoupement de témoignages le plus objectif possible sur ce qui s'est passé. Et donc, Jean Norton Cru, tu nous l'expliquais à l'instant, là, essaie de passer une foule d'auteurs, alors que dont la plupart sont complètement oubliés aujourd'hui, et de textes. En essayant à chaque fois d'évaluer leur degré d'objectivité, de fiabilité, de plausibilité et l'apport qu'ils peuvent faire dans l'espèce de recoupement comme ça de perspectives pour construire un récit objectif de ce qui s'est passé entre 14 et 18 sur le front, avec cette espèce de tentative pour essayer d'éviter tous les pièges des clichés finalement narratifs de l'héroïsme ou au contraire on va peut-être en parler des clichés pacifistes. Parce qu'il y en a aussi. Il y en a aussi. Et ils sont parfois d'ailleurs un peu solidaires des autres, paradoxalement. Donc en fait, il y a cette espèce le fait d'écarter au maximum tous les risques de fausseté, de tous les clichés qui empêcheraient de saisir une espèce de description objective de ce qui s'est passé et de l'expérience du combattant sur le front. Donc Jean Norton Cru, témoin. Alors tu nous parlais là juste avant la pause musicale. On a écouté d'ailleurs, je l'indique, un morceau des Cadavres qui s'appelle Soldat perdu, toujours avec cette pertinence acérée de José au platine dans le choix des morceaux. Alors tu nous mentionnais en fait deux journaux là dans la première partie de l'émission. Alors peut-être dire quelques mots aussi sur d'autres genres, sur la manière. Tu dis effectivement, tu insistes aussi là-dessus et c'est vrai, c'est la part de, alors il y a tout le travail de réflexion sur ce que c'est qu'une source historique, mais il y a tout le travail de critique littéraire en fait qui est celui de Jean Norton Cru et qui est complètement atypique par rapport à ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse lui, c'est de voir dans quelle mesure le texte arrive à saisir quelque chose de la réalité objective dont il parle. Le tout, effectivement, si possible, de la manière la plus directe possible.
Donc ça c'est une exigence qui est assez rare, finalement. Il y a peut-être deux choses à remarquer, mais qui vont assez souvent dans le sens de ce qu'on a pu raconter, nous, par ailleurs, sur cette antenne. C'est que il y a chez Norton Cru deux exigences qui sont indissociables à l'égard de la littérature et qui sont tout à fait inhabituelles dans la réception qu'il y a de la littérature en France. C'est que, un, il estime qu'au moins pour le témoignage de guerre, la littérature a une exigence de vérité, et que, deux, cette exigence de vérité s'articule en réalité avec une exigence quasi morale et politique. C'est-à-dire que, pour lui, mal raconter la guerre, c'est avoir une responsabilité importante dans le fait que la guerre peut se reproduire. Et en ça, il est assez proche, par exemple, de quelqu'un comme Musil, qui pense que la vision, Robert Musil, un auteur autrichien dont on a déjà parlé, je crois, qui pense que justement, peut-être qu'une des grandes causes de la guerre, c'est moins le pétrole que l'opérette. Ou
c'est-à-dire le fait d'avoir une description biaisée, tronquée, fantaisiste, idéalisée,
complètement idéalisée de la guerre, qu'on part fleur au fusil en se disant que la guerre est belle, que on va devenir un homme en risquant sa vie, alors que si on a une description plus terre à terre de la guerre, qui se compose d'énormément de peur, d'après Jean Norton Cru, beaucoup d'ennui, beaucoup d'inaction et beaucoup de moments horribles. Qui viennent interrompre en quelque sorte l'ennui, les rats, la fatigue, la peur, et puis voilà, des trucs pas terribles, quoi. Finalement, en quand, ou du moins en déformant la vision de la guerre, finalement, on a une responsabilité aussi dans la poursuite de la guerre. Mais ça, ça va être aussi valable, alors après, peut-être qu'on y reviendra, pour les pacifistes. Mmh. Et c'est là que c'est... où il va dire, justement, il va leur reprocher de ne pas être exact. Mmh. Et peut-être, de manquer, en manquant de vérité, de manquer à leur projet initial, parce que lui non plus ne veut pas que la guerre recommence. Mais comment est-ce qu'on décrit la guerre ? Là, il y a Philippe Oliveira qui dit, voilà,
dans la préface, là,
qui dit, une bataille ainsi sur deux fronts, contre la vision héroïco-légendaire de la guerre, mais aussi contre le pseudo-réalisme macabre. Donc, pseudo, voilà, c'est un réalisme qui manque sa cible, en fait, on parle pas de la réalité, qui s'est imposé contre elle. À propos de Barbus, on y reviendra sans doute, et de sa critique du bourrage de crâne, il écrit, Jean Norton Crue, « On croit que le contraire d'une erreur doit être la vérité. 99 fois sur 100, ce contraire est tout bonnement une autre erreur. » Ça, c'est un point de philosophie, de la connaissance qui est fondamentale, extrêmement basique, que beaucoup de gens ont tendance à oublier. C'est la contradictoire de quelque chose de faux qui est nécessairement vrai, mais pas le contraire. Mais là-dessus, évidemment, tout le monde n'a pas fait ce genre de truc. Mais après, il écrit aussi « Une erreur à une multitude de contraires, dont un seul est la vérité. Les autres étant des erreurs au même titre que la première. Cette logique élémentaire a échappé aux ignorants et aussi à beaucoup d'esprits avertis quand il s'est agi de savoir quel livre décrivait la guerre avec le plus de fidélité. » Et donc après, à propos de Roland d'Angélès, il écrit « Jadis, le public voulait une guerre romancée avec drapeaux déployés et flamberges au vent. » Aujourd'hui, il aime une guerre non moins romancée, avec boyaux dallés de mort aux grimaces infernales et baisers aux cadavres. Ce n'est pas un progrès. L'humble vérité est aussi loin du réalisme artificiel que de l'épopée. Et donc, on est clairement, malgré tout, dans une approche littéraire.
Bien sûr.
Esthétique. Ouais. Mais avec une esthétique qui va quand même demander des comptes.
Ah bah une esthétique de vérité. Oui.
Une esthétique de vérité, mais qui va demander des comptes politiques à ceux qui racontent les choses. Mm-hmm. Alors en plus, quand il publie ça en 28-29, c'est l'époque aussi où, par exemple, alors ça, il n'en parle pas du tout, où vous avez quelqu'un comme Ernst Jünger, qui va publier Orage d'acier.
Du coup, de l'autre côté du Rhin, ouais.
De l'autre côté du Rhin.
On a eu l'occasion d'en parler, ouais.
Ouais, vite fait, qui est un récit, complètement, justement, qui tente...
Une espèce de mystique de la guerre, de la guerre moderne.
C'est-à-dire que Jünger essaie d'échapper, à Homère, à faire un récit de guerre qui n'est pas homérique, puisqu'il prend en compte... la dimension,
technologique, abstraite, massive. Mais en même temps, tu as quand même ce projet d'héroïsation. Voilà, il cherche une espèce il se pense comme un Homère moderne, en fait. Hein,
oui.
Un Homère de la technique, des chars d'assaut, des orages d'acier, etc. etc.
C'est ça. Il se pense comme celui qui va écrire la guerre moderne et donner les canons, les canons, les normes, si vous préférez.
Gros succès chez les anciens combattants allemands.
Énorme succès, qui au début est publié d'ailleurs comme un ouvrage politique. Qui vise à montrer que ceux qui sont dignes de prendre le pouvoir sont ceux qui étaient dans les groupes d'assaut des tranchées, et que là il y a des gens qui sont capables de prendre leurs responsabilités et d'assumer le danger du pouvoir, et qui ensuite sera de plus en plus transformé en une espèce de truc littéraire au fur et à mesure des éditions de Jünger transformé. Mais bon, ici justement, nous en France, on a tendance plutôt à parler de Jünger que de Jean Norton Crue. C'est Jünger qui a la Pléiade. Hein. Bon, après, le bouquin de Crue serait difficile de le mettre. Alors, j'ai dérivé.
Deux mots sur le roman, peut-être.
Alors, attends, parce que. Ensuite, il y a peut-être les souvenirs, je ne sais pas, parce que c'est ce qu'il va dire. D'abord, il y a les journaux.
Ouais.
Ensuite, il présente ce qu'il a appelé les souvenirs.
Ouais.
Qui sont un peu différents des journaux parce que c'est des choses qui sont écrites après coup. Et donc, par exemple, il dit voilà, les souvenirs diffèrent des journaux par la manière dont ils sont datés. Ils en usent librement avec la chronologie. Ils n'ont rien de ce qui caractérise des éphémérides. Les récits, les pensées sont plus ou moins datés, mais la date n'est pas la chose essentielle qu'elle est dans les journaux. Et à partir de là, ils vont en tirer des conséquences. En fait, c'est une classe plutôt hybride et qui, pour être déterminée, demanderait des subdivisions. Bon, mais il dit, voilà, souvenir suffisamment daté pour que le récit soit clair historiquement et vérifiable. Donc, ici, la date, c'est important pour vérifier les choses. Tu dis qu'il s'est passé telle chose à tel endroit, à tel moment. Est-ce qu'on peut vérifier ? Oui, non. Si on peut vérifier, c'est bon. Si on ne peut pas vérifier, il y a un doute. dans des souvenirs. C'est possible que ce se soit passé, mais on n'en sait rien. Et donc, il dit, voilà, souvenir où le mépris des dates est évident, souvenir à tendance plus littéraire que documentaire, souvenir à tendance didactique ou propagandiste, etc. Je n'ai pas voulu pousser la classification à ce point. Et donc ici, il va dire, voilà, c'est la classe qui comprend le plus grand nombre d'auteurs, mais les bons, ils sont rares, les médiocres, trop nombreux, on en trouve même dont la valeur est nulle. Alors, ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu dans la critique littéraire. C'est l'idée qu'il y a certains trucs qui sont pourris.
Il écrit bien.
Et en plus, il écrit bien. Oui, d'un point de vue rhétorique, son truc, sa phrase est très bien construite. Mais, comment dire. Et ici, voilà, donc il veut pas pousser trop le truc, mais dans les souvenirs, voilà, il va dire, voilà, certains ne valent rien.
Du point de vue de ce que serait une enquête sur une espèce de récit comme ça.
Si tu prétends raconter ce qu'a été ta guerre dans tes souvenirs,
si tes souvenirs sont faux, flous,
invérifiables,
voilà, ou entièrement aspirés dans des espèces de figures stylistiques ou de formes littéraires qui sont fausses,
c'est ça, c'est pas des souvenirs.
Ben voilà.
Donc, t'as raté ton projet. Voilà. Alors peut-être que c'est bien d'un autre point de vue, faudrait voir.
Donc poubelle.
Mais c'est ça.
Du point de vue de la vérité de la guerre.
C'est ça, et d'histoire. Aussi, de qu'est-ce qu'on peut en faire.
La vérité historique, morale et politique, effectivement, de cet événement-là.
Et là encore, il a lu. Alors là, c'est un aperçu, hein, parce que Chagone, ils ont taillé quand même, je crois qu'ils ont retiré quasiment 800 pages. C'est énorme. Enfin, je ne sais plus, hein, ça. Mais, et là, vous avez une dizaine d'auteurs, tous plus inconnus les uns que les autres. Mais c'est analysé, c'est présenté. Alors, je pense que c'est quand même, ça, on en discutait aussi, c'était quand même un bouquin pour des gens qui. Comment dire, sont passionnés par la première guerre mondiale ou par le problème du témoignage.
Donc témoin, Jean Horton Cru.
Bah, c'est de, ouais,
c'est une question, parce que c'est bon, peut-être on peut se le garder sur la fin, parce qu'effectivement ça, c'est un livre qui ressemble pas à un livre en fait.
Non.
Et en même temps, c'est presque un essai philosophique, c'est presque c'est un travail d'historien, c'est un travail de critique littéraire, c'est une enquête autour de la vérité qui est acharnée. Enfin, y a peut-être pas tellement d'équivalent en fait. C'est une mine de bibliographique, ça c'est moins qu'on puisse dire. Alors ça laisse.
C'est vraiment une mine parce que là par exemple je tombe sur les réflexions appartiennent là et après les souvenirs il y a les réflexions.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, t'as aussi voilà.
Et donc les réflexions appartiennent en fait à la classe des souvenirs qui, je l'ai dit, demanderaient des subdivisions que je n'ai pas voulu faire par crainte de complexité. J'adore. J'ai tenu cependant à détacher des souvenirs les livres qui donnaient la première place, non à la relation des faits. Relation, ça veut dire le récit. Il a un style un peu classique. Mais aux réflexions, méditations, pensées, en un mot, à la philosophie de la guerre. Plus cette philosophie tient de place, et moins les dates sont nécessaires. Alors, vu ce que vous avez... Si vous avez entendu le début de l'émission...
Ce qui n'est pas forcément un compliment.
Chez Norton Cru, j'ai dans Témoin, chez Agone, ça, déjà, on sent que ça pue. D'accord. Georges Bonnet, qui a écrit le type le plus parfait de cette classe de livres, n'a aucun récit, par conséquent, point de date. Et donc là, il n'y a plus de chronologie. Et il va dire, par certains côtés, les livres de ce dernier genre pourraient se confondre insensiblement avec des œuvres de civils, donc de gens qui n'ont pas fait la guerre, et servir de pont entre le front et l'arrière. Nous affirmons au contraire que le gouffre entre le combattant et le civil resta béant et infranchissable durant toute la durée de la guerre. Tout livre du front, qui semble servir de pont, est un mauvais livre, dans la mesure où sa couleur se fond par teintes graduelles, jusqu'à coïncider avec la couleur des idées civiles.
Ça, c'est quand même c'est un théorème chez lui, ça.
Ça, c'est un théorème. Plus t'es loin du front...
Tu ne peux savoir ce qui s'est passé que si tu l'as vécu, quoi, ça. C'est ça. Il faut que t'incarnes la situation pour pouvoir...
Ça, c'est très clair, c'est ce que je disais au début, c'est cette espèce de règle de la véracité qui est inversement proportionnelle à l'éloignement. C'est-à-dire que ici, dans son livre Témoin, il accorde une importance essentielle à l'expérience directe.
C'est une espèce de truc anti-fictionnel ou anti... Tu peux pas accéder à une vérité objective par la fiction.
Peut-être. Et peut-être aussi l'idée que si tu veux transmettre une expérience, il faut l'avoir vécue.
Ce qui se discute, hein.
Ce qui se discute.
Ce qui peut se discuter, je veux dire. Enfin, c'est...
Parce que tu peux ne pas être capable de la transmettre, même si tu l'as vécu.
Oui.
Ensuite, est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce que tu peux être capable de la transmettre si tu l'as pas vécu ?
Ben, c'est possible. Voilà, c'est la place de l'imaginaire ou du fictif.
Elle est évidente.
C'est sûr qu'il faut. Enfin, c'est une question. Il faut être prudent là-dessus, mais il est peut-être un peu. un peu définitif sur cette question.
C'est ça. Et alors quand il dit, alors quand ce phénomène se produit, c'est-à-dire quand il y a une espèce de dégradé de l'expérience du front jusqu'aux
idées des civils,
vers la civilité, et donc là Louis Thomas, il donne des noms, hein, il tire à balles réelles, c'est que l'auteur a fait de moins en moins appel à son expérience personnelle de combattant pour épouser des idées qu'il croit nationales, patriotiques, normales, alors qu'elles ne sont fondées que sur l'ignorance de la guerre.
Ça fait penser pour le coup à des formules de Mousine, hein, quand il dit qu'effectivement qu'on retombe toujours sur les mêmes vieux chapeaux, les mêmes vieilles vestes, les mêmes vieilles fringues mal taillées pour raconter un événement. C'est des trucs, on prend les premiers trucs qu'il y a dans le placard et puis voilà quoi.
C'est oui, ouais. Complètement.
Ouais, parce que là, on est vraiment là-dedans. Hein.
Oui.
Il y a un côté pour le coup.
Complètement. C'est-à-dire que globalement, l'expérience vécue, et ça, je pense que c'est assez clair. Mais je pense que c'est des réflexions que beaucoup d'anciens combattants s'en font. C'est l'expérience de vécu individuel, finalement, et parfois très très souvent intransmissible dans des formes, qui ne sont pas déjà des clichés. Et que on a tendance à comprendre notre propre expérience à travers les clichés que la société nous donne. Ce qui, à mon avis, est quand même souvent assez vrai. Alors, comme tu disais, le théorème, il est peut-être discutable. Ensuite, ce qui est remarquable aussi par rapport à ça, et où il est logique, c'est que, en tout cas, au moins dans la sélection des textes qu'a fait Agone, mais je pense que c'est assez logique par rapport au reste, il n'y a aucun récit de généraux.
Ouais.
Il cite pas Foch, il cite pas.
Ça c'est un point important. Si tu veux, c'est qu'effectivement.
Il cite pas non plus l'autre là, comment il s'appelait, un certain Pétain là.
Philippe, hein, ou Joffre, ou autre, si tu nous écoutes. Ouais. Non, mais effectivement, t'as ce côté-là, le côté. Il faut que ça vienne. C'est la vérité par la base, quoi.
Mais
c'est une conception basiste de la vérité, basiste et directe.
Au moins sur qu'est-ce qui s'est passé sur le front. Et comment est-ce qu'on raconte la guerre ?
Et ce qui m'intéresse là, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que, d'une certaine manière, si tu as un point de vue d'état-major, tu ne peux pas comprendre.
Oui.
Et tu ne peux pas savoir. Du point de vue du. Si tu es un civil ou si tu es à l'état-major, tu ne peux pas savoir. Et inversement, tu ne peux savoir, effectivement, que par la collecte, comme ça, des perspectives particulières et directes de ceux qui sont sur le front. Et voilà, c'est partiel, mais il y a d'objectivité que partielle là-dessus. Enfin, c'est une espèce de philosophie, on parle de perspectivisme, hein, mais t'as une espèce de perspectivisme radical, là, en fait, hein, de sa part, au niveau de la... Bon, on se fait peut-être une dernière petite pause musicale, voilà, avant la dernière partie de l'émission.
S'il fallait faire la guerre, mon beau, bien sûr tu irais la faire, bravo. Et malgré que tu détestes les fusils et tout le reste, ton dernier regard, je ne l'aurais pas sur le quai de la gare. Ton dernier regard, tu me le donnerais trop tard. Quand vous vous trouvez entre hommes, mon ça se passe toujours comme dans le temps, comme sur les bancs de classe, quand les filles vous embarrassent. C'était le bon temps, on courait la lande, on courait les champs. Nous, pendant ce temps, on restait près de nos mamans. Car la vie est ainsi faite, mon doux. Et ce qui reste, c'est nous. Nous qui nous cassons la tête à vous attendre, c'est bête. Mais il ne faut pas que ça nous chagrine, etc. La soupe cuira pour nos prochains petits soldats. À la guerre comme à la chasse, c'est vrai. Ce n'est jamais notre place, je sais. Nous faisons des maladresses, et avec notre tendresse, nous dérangeons tout, Dieu merci, vous ne le faites pas, vous. Nous dérangeons tout, nous mettons notre cœur partout. Mais on est mieux à se battre, je crois, qu'à rester auprès de l'âtre si froid. Et si c'était à refaire, comme le disait mon père, moi je vous le dis, tous en moins d'une heure seraient repartis, nos frères, nos maris, et nos amours et nos petits. Laisse-moi penser encore, mon beau, que tout ça c'est du folklore mélo, de l'histoire inévitable que l'on se raconte à table, et que mon regard ne te suivra pas sur le quai d'une gare, et que nos regards ne se croiseront pas trop tard.
Bonsoir, chers éditeurs. Vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4. Radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour son dernier quart d'heure autour ce soir d'un livre de Jean Norton Cru qui s'appelle Témoin, qui est une réédition chez les amis d'Agone de Marseille, là, qui ont réédité une sélection de ce texte inclassable, fascinant de Jean Norton Cru sur la Première Guerre mondiale, où on trouve donc comme
enfin, sur les récits
de la Première Guerre mondiale et toutes les différentes formes de témoignages collectés par Jean Norton Cru sur la Première Guerre mondiale, dans le but d'essayer d'avoir une espèce comme ça, par recoupement de perspectives et de témoignages, d'avoir un récit qui soit le plus objectif et le plus juste, le plus vrai possible sur ce qui s'est passé dans ces quatre ans dans les tranchées. On a parlé du traitement qui réserve aux journaux, qui réserve aux souvenirs,
aux réflexions,
déjà un peu plus distancié, un peu plus théorique, un peu plus, en général, un peu moins intéressant, d'après lui aussi, sur la vérité de l'expérience du front. On peut peut-être dire un mot maintenant, pour terminer, sur du coup la réception de ce travail. Alors, tu l'as dit, hein, la réédition, là, elle fait 800 pages. Bon, c'est pas à lire comme un roman, c'est à la fois un travail de bibliographie, d'historiographie, de critique littéraire, tu l'as dit, il y a une dimension philosophique de quête de la vérité sur cette espèce d'événement complètement inouï, disproportionné, irracontable d'une certaine manière, qu'est la Première Guerre mondiale. Il y a aussi une dimension de provocation et de scandale, notamment dans la réception du livre quand il sort, tu dis, parce que en appliquant cette méthode et cette exigence là qui est celle de Norton Cru, il y a un certain nombre d'idoles qui tombe, hein, et de récits alors héroïques pacifiques, mais qui dans les deux cas manquent, d'après Norton Cru, la réalité, hein, de l'expérience du front et de la guerre, qui vont se trouver effectivement dans le viseur, hein, de ces analyses.
Bah, dans la préface de Philippe Oliveira, il y a toute une présentation justement de la querelle qui a eu lieu lors de la publication du bouquin.
On est en 27, 28, c'est ça, 28, tu dis, hein, la première édition, c'est ça.
La première édition, je crois que c'est 29, la première édition.
Il a quand même Il a compulsé pendant 10 ans. Hein.
C'est ça. Ouais, il a tout. Et en 29, des acteurs essentiels au niveau politique de la guerre meurent. Il y a des témoignages qui sortent et tout. Et Jean Norton Cru pense avoir fini son boulot, je pense, et il va publier son livre. Mais il y a plusieurs obstacles. Il va publier ces deux gros volumes, parce que là, il n'y en a qu'un seul de volume, mais à l'origine, il y en a deux, qui coûtent très cher. Et il y a un premier, et c'est des choses c'est presque illisible en fait. Et donc il y a déjà très peu de gens qui vont le lire, et ceux qui vont le lire, Philippe Oliveira remarque que il y en a que très très peu qui finalement diront c'est un livre indispensable si vous voulez comprendre la Première Guerre mondiale. Et sinon, en fait, du fait de son exigence de vérité, Jean Norton Cru va se retomber dessus par à peu près tous les gens qui ont écrit sur la guerre, parce que comment dire, il va y avoir les patriotes qui vont être outrés du fait qu'il attaque les héros morts pour la patrie, comme celui dont je vous disais là, qui se lève tout droit, crie vive la France et meurt et s'abat comme une masse. Donc ça, c'est insupportable, évidemment, que ce type de récit héroïque soit attaqué. Mais, et on va vous dire quelques mots, comme il s'en prend aussi à la littérature pacifiste de l'époque, eux aussi vont lui tomber dessus. Et enfin, il y a au moins une dernière frange qui va lui tomber dessus, c'est tous ceux qui vont lui dire « la littérature a tous les droits ». Et donc, peu importe que l'on dise des choses vraies ou fausses, peu importe qu'on encourage à la guerre ou pas, on est des littérateurs, finalement on dit ce qu'on veut. Et donc là-dessus, c'est ce qui explique peut-être pourquoi cette espèce d'œuvre monumentale et qui a sans doute été lue par pas mal, par tous les historiens, j'imagine, un peu spécialisés sur la guerre de 14, a été complètement oubliée. Je pense. Parce que vous avez une autre édition, si vous voulez vous procurer le bouquin de façon très très brève et pas vous taper les 800 pages, vous avez Alia qui avait publié une version assez courte, je crois, qui s'intitulait aussi Témoin. En 1989, c'est ça, on avait regardé la date, je sais plus.
Oui, il y a deux éditions dans les années 90.
Mais ça, c'est une version très très courte du texte. Mmh. Alors, ils ont peut-être fait une sélection encore plus très drastique, ouais. Peut-être qu'ils concentrent un petit peu l'essentiel. Et donc, voilà un petit peu une des raisons de... Donc, c'est un bouquin qui sera réédité, je crois, avant, tu disais, je sais pas. Plus
bah, y a, oui, y a
avant
plusieurs...
les années 60, 70,
oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu as une première édition en 28 avec le scandale là. Alors, tu as notamment effectivement Barbus, le feu, alors oui. qui est un texte alors, qui fait date pour le coup dans l'histoire. Mmh. Voilà, Barbus, donc le monument pacifiste, socialiste de l'entre-deux-guerres, enfin, qui n'a pas que des défauts, hein,
non.
loin de là, mais qui, aux yeux de Jean Norton Cru, a le défaut en fait de nous proposer une version. Finalement misérabiliste en fait, misérabiliste et excessivement misérabiliste de l'expérience du front et de l'expérience du soldat en insistant sur les morceaux de corps en lambeaux suspendus dans les arbres, dans les barbelés que l'ami doit aller retirer par phalange par phalange.
Ouais, les alors là, sur
qui ne correspond pas à ce que les soldats ont vécu.
Ont vu. Donc il dit voilà, tous les auteurs de romans de guerre se targue de parler en témoin, de faire une déposition devant l'histoire. Comment concilier cette prétention avec la liberté d'invention ? Donc ici, il nie pas la nécessité ou la légitimité de la liberté d'invention. Ouais. Il dit simplement comment est-ce qu'on concilie les deux prétentions, à la vérité
tu peux pas,
et à
réclamer
la
l'autorité du témoin et te faire plaisir dans la fiction.
C'est ça. Ouais. En fait, ces romans ont semé plus d'erreurs qu'ils n'ont proclamé de vérité, ce qui était à prévoir. La critique que nous en faisons ne prétend pas corriger les jugements de la critique littéraire, même quand elle semble les contredire absolument, car elle n'est jamais fondée sur ce qui détermine l'opinion d'un critique littéraire. Ah, ils essaient de se mettre à l'abri, en particulier, de se démarquer. C'est-à-dire que notre critique n'a rien de commun avec celle des publicistes cantonnés dans le domaine de la littérature.
Cantonnés. Hein.
Oui, je les apprécie quand même pas beaucoup. Quand, par exemple, nous exprimons un jugement défavorable sur les Croix de Bois, nous nous fondons sur les mêmes principes qui nous ont fait dire, dans l'introduction, que les récits de guerre de Balzac n'ont aucune valeur documentaire. Avec cette différence toutefois que Balzac, non combattant et non témoin, ne mériterait pas les réfutations détaillées que nous sommes en droit de faire au récit trop fantaisiste d'un combattant qui prétend témoigner ou dont on a présenté l'œuvre comme un témoignage. Donc ici, ce qui le gêne, c'est pas l'invention, c'est la prétention, en quelque sorte, double à la vérité et à la liberté d'invention. Et donc sur Barbus, alors... bon. Il est quand même très dur. Donc il va analyser l'œuvre de façon très détaillée, parce que Barbus a beaucoup écrit. En plus, bon, simple Barbus, homme de lettres, simple soldat puis brancardier dans l'infanterie, séjour au front 11 mois. Témoignage, haine. Âge 41-42 ans. Et donc, il va, comment dire, on sait que Barbus a connu directement le combat. Et là, peut-être qu'il est parfois injuste, d'ailleurs, avec Barbus, parce que à l'époque, quand Cru a écrit son bouquin, il savait pas si Barbus avait été vraiment, vraiment au front, ou s'il avait été
d'accord,
un peu
éloigné. Il est sévère. Mais donc, inversement, quelqu'un. Par contre, Genevoix, il applaudit dès demain.
Oui.
Bon, Genevoix, c'est voilà.
Alors, donc, parfois, voilà, on a il les obus donnent l'image de la colonne de feu et la colonne de fumée. Preuve que chez l'auteur, les souvenirs de lecture l'emportent sur les souvenirs visuels. Ça c'est... Il a comme ça des phrases qui sont... Ce fait, bien entre bien d'autres, prouve que l'expérience de Barbus consiste surtout en récits entendus qu'il n'a pas compris. Et ça c'est au sujet du bruit des obus. Et donc... Ensuite, il va dire, voilà, comme ça, des choses comme... parce qu'il va dire, voilà, il y a des choses qui sont fausses, et en quelque sorte, plus on est loin, en quelque sorte, de l'expérience, plus Barbus va dire des choses qui, pour un soldat, semblent... Attends, là, j'avais... au sujet d'une attaque de tranchée, il dit, voilà, Barbus, qui n'a jamais fait d'attaque, ignore que la prise d'une tranchée est suivie d'une période d'activité intense pour mettre en état de défense un ouvrage orienté à rebours, et que la contre-attaque va submerger dans peu de temps. Aussi incite-t-il pendant 3 pages sur le désœuvrement, l'oisiveté, l'ennui des vainqueurs. Et il va faire comme ça tout un tas de remarques en disant qu'ils sont sans doute peut-être sévères. Où justement, il va noter que Barbus, ça ne marche pas parce que justement, il est trop loin de la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit, José ?
Non, il n'a rien dit, vas-y.
Il n'a rien dit.
Ok.
Ouais, et... il n'est pas opposé au genre romanesque en soi.
Ouais.
Puisque justement, y compris dans le genre romanesque, il va dire du bien. Attends, je regarde le truc. Parce que là, on est dans les romans. Donc, il y a Barbus, il y a Barès, Benjamin, je trouve.
Sur Barès, il dit quoi ?
Sur Barès, Barès. Est-ce que Philippe Barès, est-ce que c'est le nôtre ?
Ah non, c'est pas le même.
C'est pas le même, hein ?
Non.
Et après, effectivement, il y a Dorgelès. Où justement, par exemple, il va dire, semble-t-il, il trouve que Dorgelès a fait du bon travail. Alors, Dorgelès en donna une nouvelle version. Voilà. Barbus se trompe par fanatisme. Dorgelès a quand même se trompe en sacrifiant tout à la littérature. Barbus est d'ailleurs très sincère, dans le feu, au moins, et non après. Il écrit pour défendre sa foi. Qui oserait... Ah non, je pense, tiens, il n'est pas si... Qui oserait en dire autant de Dorgelès quand il imite le feu? C'est le succès du livre qu'il veut surtout imiter, et cela se voit trop à toutes les ficelles dont il se sert. Dorgelès songe tellement à ses effets qu'il n'a pas le loisir de vérifier si les détails de son récit ne jurent pas avec la réalité. Nous allons énumérer quelques-unes de ses erreurs. Attends, c'est lequel qui va encenser?
C'est Genevoix.
C'est Genevoix, oui, c'est ça. Ouais. C'est pas Dorgelès. Ouais. Et donc, ici, vous avez, voilà, il se paye aussi Dorgelès. Alors, c'est un livre qui est monumental.
C'est quasiment un dictionnaire bibliographique, en fait. Et en même temps, avec un projet historique, philosophique, littéraire, moral, c'est assez fascinant. Hein, question, qu'est-ce que c'est qu'un témoin ? Qu'est-ce que c'est qu'un témoignage ? Sachant qu'évidemment, sur des scènes de guerre, il n'y a pas de documentaire embarqué, il n'y a pas de... Donc en fait, on n'a que ça, d'une certaine manière.
On n'a pas de vidéo,
Ou alors, et de toute façon, même quand on en a, comme tu dis, parles effectivement de la guerre en Ukraine actuelle, quand on en a, les mêmes problèmes se posent.
Oui.
Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un témoignage fiable ?
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est qu'un témoignage fiable, véridique, effectivement ?
Qu'est-ce qu'on voit ? Où est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on peut le dater ?
C'est ça. Et comment tu peux parler de la vérité de ce qui se passe et de ce qui s'est passé si tu n'as pas ce travail de réflexion là sur ce que c'est qu'un témoignage fiable et sur la manière de les recouper, les additionner, de les confirmer, de les... Et effectivement, il prend cette exigence-là complètement au sérieux, ce qui est normal en réalité. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point on peut ne pas prendre cette exigence-là au sérieux.
À quel point, même parfois, pour ceux qui ont témoigné, qui ont écrit des livres de guerre, cette exigence est insupportable en fait.
C'est ça.
Et donc voilà. Alors, c'est un livre qui est plus à feuilleter, parce que bon. Vous n'allez pas vous taper tous les récits sur Philippe Millet, de Martial Lequeux, Maurice Laurentin, enfin Georges de la Tour du Pin, Léo Larrier, Georges Lafont. Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est quand même. Et donc, c'est quand même, je pense, une œuvre importante
dans ses principes
et dans sa réalisation. Tout ce qui touche à la propagande et à la vérité du récit vous intéresse.
Voilà, donc c'était Témoin de Jean Norton Cru, présenté par Michel, et on vous laisse avec Cyclicuitus sur un morceau éloquent puisqu'il s'appelle Boom.
En hiver nucléaire, dans les lents, dévasté, il n'y a plus grand chose. solitaire, mais après tout, que veulent les vieux?
Du vrai, de la guerre.
La guerre, la guerre, qu'est-ce qu'elle a mis de moi, la guerre?
Avec mon œil dans la gorge, je me demande de quoi j'ai l'air.
La guerre, c'est comme si c'était mon frère. Les shurikens dans les yeux, les hostiles sur la chair.
La guerre, qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la guerre? Avec sa main, moi, je suis au carré au monastère. La guerre, comme si c'était mon grand frère. Elle met comme ma torture, et je dis que je vais partir.
La guerre.
Éclater les missiles
et décompter les morts pour faire valider son score. Et tout ça pour quoi faire?
Et t'as même pour...